Le Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et nous sommes en plus dans la joie de voir toutes les mamans ce matin, si ravissantes, si belles. Toujours. Très bien, merci. Et c'est une bénédiction de Dieu d'être maman. Parce que le fruit des entrailles est une bénédiction de Dieu. Je vous souhaite encore une bonne fête et que Dieu vous bénisse dans toute votre vie. Nous éprouvons aussi de la joie de voir notre frère Jérôme ce matin et que Dieu continue à te rétablir parce qu'il sait pourquoi tu es là ce matin. D'accord. Et tout de suite, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Versets 14 et verset 15. 2 Corinthiens 6, verset 14 et verset 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Parole du Seigneur. Ne vous mélangez pas avec les infidèles, parce que vous êtes des fidèles. Il n'y a pas rapport. Et si l'épître de Paul aux Éphésiens était écrite pour l'Église universelle, la lettre qu'il a écrite aux Corinthiens concerne l'Église locale et de manière significative. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Dans la doctrine, dans leur vie sociale, dans leur vie spirituelle, et j'en passe. L'esprit du monde comblait cette assemblée. Et on dirait que cet esprit allait avoir plus d'influence dans cette église que l'esprit de Dieu. Le message de Paul demandait à l'église Corinthe qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin pour servir Dieu avec crainte et avec beaucoup de révérence. L'Église, ce matin, nous connaissons déjà d'où ce nom est issu. L'Église vient du grec « ecclésia » qui signifie « appelé hors de ». En d'autres termes, mis à part. Nous sortons du monde et pour rentrer dans le monde spirituel sous les joues de Dieu. L'Église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, dont le chef et le propriétaire est Jésus-Christ. L'Église n'appartient à personne d'autre. L'Église, c'est la propriété de Dieu à travers Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église, dit-il, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà pourquoi, dans l'étude biblique ce matin, nous avons vu que le salut est assuré. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas être détruite. Parce que Jésus-Christ, il est vivant au siècle des siècles, et l'Église aussi est vivante au siècle des siècles. Selon Matthieu, chapitre 16, verset 18. L'Église, c'est nous, les croyants. Toute société est régie par des lois. Des principes. L'Éternel dit à l'Église, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Parce que ce joug peut être une contrainte, une entrave matérielle ou morale qui pèse lourdement sur celui qui l'a subi. Et Jésus dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Ne vous mélangez pas avec les infidèles. Ça peut concerner mélange spirituel. Le dilemme pour l'Église de Corinthe était de se séparer des faux apôtres et des faux adorateurs. Il y a de vrais adorateurs et il y en a aussi des faux. Le croyant ne peut pas se mettre sous les joug. Le croyant ne peut se mettre que sous les joug de Christ, car son joug est doux et léger. C'est lui qui est miséricordieux et compatissant. C'est lui qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. C'est lui qui ne conteste pas sans cesse. C'est lui qui ne garde pas sa colère à toujours. C'est lui qui ne nous traite pas selon nos péchés et selon nos iniquités. Et voilà pourquoi son joug est doux et léger. Il n'y a pas comme Jésus. Il pardonne tous nos péchés et il guérit tous nos maladies. Qui peut faire toutes ces choses? Seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de fidèles ont abandonné leur assemblée pour suivre des faux pasteurs, faux évangélistes, faux docteurs et faux prophètes qui témoignent que Jésus n'est pas Dieu et le Saint-Esprit non plus. Pour sauver, il faut observer le sabbat. Le salut vient après le baptême par immersion. Alors que la Bible dit, si on n'est pas sauvé, on ne peut pas être immergé pour avoir le baptême d'eau. Le brigand qui était à la croix avec Jésus, il est sauvé. Où était le bassin où il était plongé pour être sauvé? Ces faux docteurs nous prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir à des aliments que Dieu a créés pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ même. Et nous lisons ça dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 7. Mais regardons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il dit, « Il n'est donc pas étranger que ces ministres, ça veut dire les ministres de Satan, aussi se déguise en ministre de justice, le fin sera selon leurs œuvres. » Dans le verset 13, il dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan aussi se déguise en ange de lumière. Satan a beaucoup de pouvoir, est-ce que vous le savez? Beaucoup de pouvoir, c'est Dieu qui l'a dit. Vous vous rappelez quand l'Éternel avait demandé à Moïse de jeter son bâton par terre et ça devient un serpent? Mais le magicien, il l'avait fait aussi. Attention, hein. Mais la différence, c'est que le serpent de Moïse avait englouti celui du magicien. Et c'est là la toute différence, parce que notre Dieu est tout puissant. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'a point Dieu. C'est ce que Jean a dit, hein, dans 2 Jean chapitre et dans 2 Jean verset 10. Hein? 2 Jean dans le verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Et nous avons des frères et sœurs ici qui ont rendez-vous avec des témoins de Jéhovah. Comment ça se fait? Mais la Bible dit de ne les pas recevoir chez vous et puis vous avez du temps pour les entendre. C'est contraire à la parole de Dieu. Il dit, demeurez dans la saine doctrine de Dieu, ne suivez pas les enchanteurs. Là où nous sommes, c'est bien. Paul l'avait bien dit. Moi, je sais en qui j'ai cru. Ça veut dire, si vous cherchez ailleurs, vous ne savez pas en qui vous croyez. Alors, vous cherchez quoi? Ici, c'est la vie, c'est la vérité, c'est la lumière. Quand vous partez, qu'est-ce que vous cherchez? Attention, mes frères et sœurs. Fort souvent, nous sommes bien dans la maison de Dieu. Et puis nous nous doutons, nous partons ailleurs. Et c'est quand nous arrivons ailleurs, avec les adversités, les difficultés, les tourments, et c'est alors que nous constatons là où j'étais bien, dans la maison de Dieu. Et ça arrive aussi pour beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont laissé leurs parents. Ils rentrent chez eux, mais après, chez nous, on dit, on mord le gros pouce pour montrer son regret. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous dis encore, il n'est pas trop tard de revenir. Comme l'enfant prodigue, il y a toujours de la place. Mais maintenant, pour arriver là, de ne pas nous mélanger avec les infidèles, c'est dans le mariage. Mélange dans le mariage. Jeune homme, réjouissez-vous. Livre ton cœur à la joie, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu vous appellera en jugement. C'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Le croyant n'est pas condamné exclusivement à un recueil de chants avec une Bible. Non. Loin de là. Voici ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 7, verset 2 et verset 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 et verset 7. Il dit, pour éviter l'impudicité, que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Il s'adresse aussi à Timothée concernant les jeunes veuves de l'église où ils disent qu'ils doivent se marier et enfanter, qu'ils doivent bien prendre soin de leur maison, de leur famille. Donc le mariage, c'est l'union légitime d'un homme et d'une femme. C'est pas une relation, c'est une relation hétérosexuelle et pas homosexuelle. Hein. Je répète, le mariage devant Dieu, c'est pas une relation homosexuelle, c'est une relation hétérosexuelle qui concerne l'homme et la femme. Dieu a institué le mariage dès la création du monde. Il dit, l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, vice-versa. Dans cette déclaration de Paul, où la femme doit à son mari, et le mari droit à sa femme, l'Église ne parle pas de sexualité. On dirait qu'on ne doit pas parler de sexualité à l'Église. Pourtant, c'est l'un des fléaux qui gangrène la relation des couples et des familles. Après l'argent, avec l'autorité. Parce que l'argent divise et l'autorité divise aussi. Quand vous avez une femme, c'est lui qui porte le pantalon, qui donne des ordres, et bien ça brise le foyer. Quand la femme travaille aussi, elle ramène de l'argent plus que le mari, elle prend l'autorité, ça brise le foyer. Parce que Dieu a donné aux hommes l'autorité sur la femme. Pas une autorité despotique ou des bâtons, non, une autorité administrative. C'est la parole de Dieu, hein? C'est pas frère Jean-Pierre qui l'a dit. Regardez ce que nous lisons dans le livre du Cantique des Cantiques. Le livre du Cantique des Cantiques
nous dévoile quelques paroles douces, tendres et affectives concernant l'amour. Regardons dans Cantique des Cantiques, ça vient après les psaumes. Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 2 et verset 3, qu'est-ce que nous lisons? Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ça veut dire que ce n'est pas nous les hommes qui venons avec les parfums, les bonnes odeurs. C'est Dieu. Ah oui, ce n'est pas nous. Et maintenant, même quand ça donne beaucoup d'argent aux hommes, mais c'est Dieu qui vient avec les bonnes odeurs. Et Jésus-Christ, il était venu en sacrifice comme un sacrifice de bonnes odeurs. Bonne chose. Nous continuons. Ecclésiaste et Cantique des Cantiques, chapitre 4. Chapitre 4, verset 1er. Et que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galahad. Verset 10. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Verset 11, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Mais c'est dans la Bible, hein? C'est dans la Bible. C'est pas Jean-Pierre qui l'a dit. Avec quelle autorité? Alors vous ne voulez pas en parler. C'est pas un péché. Continuons. Chapitre 7. Chapitre 7, verset 2 et verset 3. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ce n'est pas n'importe quel artiste, hein. Attention. Hein. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré d'hélices. Il ne faut pas parler de saint parce que c'est péché. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Il ne faut pas parler de la belle forme d'une femme ou bien d'un homme. C'est péché. Si une femme a une belle forme, pourquoi on ne peut pas dire qu'elle a une belle forme? Si un homme est un beau gosse, pourquoi on ne peut pas dire que c'est un beau gosse? C'est la parole de Dieu qui a toute autorité. Alors, toutes ces paroles charmantes et romantiques viennent de l'homme. Et qu'en est-il de la femme? Regardons chapitre 6, versets 1 à 3. Où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle des femmes! De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau par les lys. Quand on voit troupeau ici, à quoi ça vous fait penser? Un troupeau? Mais c'est Jésus même. La femme s'est pris de grand amour pour l'homme. L'homme rend à la femme la réciprocité. Donc, le cantique des cantiques a illustré la célébration de l'amour exclusive entre un homme et une femme. C'est aussi une image typologique de la relation entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église, parce que l'Église est la fiancée de Jésus-Christ. Et nous attendons pour que les noces soient célébrées. Ce sera merveilleux. Hein? Ce n'est pas comme ce que nous avons vu pour la royauté en Angleterre la semaine dernière. Nous avons vu tout. Mais ça passe. C'est pour un homme de temps. Mais ce qui va être fait pour nous restera pour l'éternité. Et c'est une éternité bienheureuse. Vous n'êtes pas fier ce matin d'être la fiancée de Dieu, d'être l'épouse de Jésus-Christ en tant que l'Église. Frères et sœurs, jeunes gens et jeunes filles, Dieu interdit formellement le mariage mixte. Mariage entre fidèles et infidèles. Mariage entre croyants et non-croyants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. Il n'y a pas de relation entre la justice et l'iniquité. Paul fait opposition de façon radicale entre le Christ et le diable. Entre le temple de Dieu et les idoles. Nous sommes mis à part pour le service de Dieu. Et c'est un engagement profond, c'est une sorte d'allégeance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on fait une allégeance, c'est un engagement. Voyons ce que dit la parole de Dieu dans Exode chapitre 34, verset 15. Genèse, Exode. Exode 34, verset 15. L'Éternel dit à son peuple, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. » Nous continuons. Dans Deutéronome 7, le verset 3, il dit, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. » Tu ne donneras point tes filles et à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ne donne pas ta fille aux jeunes gens du monde. Et ne donne pas ton garçon à la jeune fille du monde. Dieu ne prend pas plaisir à ce type de mélange. Alors, qu'est-ce que nous pouvons répondre à Moïse? Puisque nos conversations sont mondaines, nos relations sont avec le monde, nos fréquentations sont mondaines, notre habillement est pareil à celui des païens, nos réactions et nos comportements ne font pas la différence. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons trouver dans le monde est aussi dans l'Église. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Regardez autour de vous et vous allez voir. Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 10, verset 21. Il dit: vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. La parole de Dieu est oui et amen. Nous vivons dans un monde en pleine déliquescence. Sur chaque 3 mariages aujourd'hui, il y a 2 divorces. Parce que ces mariages ne sont pas basés sur l'amour. Ils sont basés sur trop d'intérêts. Ces mariages sont célébrés au détriment de l'amour. Parce que c'est l'intérêt d'abord qui en font les charmes. Et l'État encourage les divorces. Vous savez ça? Quand vous allez dans les administrations, on vous demande: vous êtes pacsé? Vous vivez en couple? Devenez seul. Vous allez recevoir des allocations de la CAF. L'énigme: la femme vit seule, mais elle porte souvent un enfant. Alors, quelle est votre position ce matin? En tant que fidèle, quel est votre engagement, vos relations? Jeunes gens, jeunes filles, frères et sœurs, ne vous engagez pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ne vous engagez pas avec quelqu'un qui ne confesse pas la même foi que vous. Avant toute aventure, renseignez-vous et demandez conseil. Et surtout à vos parents, parce qu'ils sont les mieux placés pour vous conseiller. Vous savez une chose? Si je savais, arrive toujours en retard. En créole, on dit si m'te connais, toujours derrière. Attention, hein? Les hommes comme les femmes d'aujourd'hui se présentent comme des moutons, mais au dedans d'eux, ce sont des lions et des lionnes. Et quand ils enlèvent cette peau de mouton, vous allez être dans l'étonnement de voir un lion qui vous égorge et qui fait la fête, parce que la force du lion est faite de moutons assassinés. Jeunes gens, jeunes filles, c'est pas écrit dans la Bible de vivre sous le même toit avec votre partenaire avant le mariage. C'est pas écrit dans la Bible. Donc, puisque vous avez l'intention de marier, il faut y prendre, il faut rentrer sous le même toit. Donc, si ça me plaît, je continue. Si ça ne me plaît pas, je jette dehors. Je vous dis une chose. Les parents ne sont pas disposés. Et ils n'ont pas disposé d'un service de retour comme le magasin. Vous achetez, vous allez chez vous, vous utilisez, si ça ne vous plaît pas, et puis vous retournez au magasin. Ce n'est pas ça la Bible dit. Nous ne pouvons pas nous mettre sous le même toit avec quelqu'un sans le mariage. C'est contraire à la volonté de Dieu. Il faut observer la parole de Dieu à la lettre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors, pour éviter tout échec, il faut mettre vos parents au courant de toute décision que vous allez prendre. Je vous répète encore, c'est votre meilleur conseiller. Il n'y a personne dans ce monde qui vous aime plus que votre père, plus que votre mère. Et pourquoi vous ne voulez pas parler avec eux? Parce que vous marchandez toutes les ustensiles du dehors dans la rue pour venir avec. Les bonnes choses sont toujours cachées dans les magasins avec une clé pour ouvrir les tiroirs. Je vous dis ça, hein, et c'est sincère. Hein. On ramasse n'importe quoi dans les poubelles, mais les bonnes choses sont toujours sous clé. Nous avons des histoires dans la Bible qui peuvent nous servir d'exemple. C'est l'histoire de Rebecca avec Isaac. Ah, il y avait la joie. Hein? Quand Isaac avait vu la belle femme, hein, qui s'avance, il y avait de la joie. Et il y avait demande à son père et à sa mère. Et c'était bien fait. Selon Genèse chapitre 24, vous pouvez lire tout le passage, mais le verset 63 à 67. C'est une belle leçon, un bel exemple. Mais pourtant, il y a un contraste entre l'histoire de Samson qui était trahi par Delila et fait prisonnier aux Séraphins, hein, aux Philistins. C'est l'histoire que nous trouvons dans Juges chapitre 14, du verset 1 à 3, et chapitre 16. Delila, avec ses belles paroles, hein? Ça fait deux fois, ça fait trois fois que je t'ai dit, hein, tu ne m'as pas écouté, mais vous ne m'aimez plus. Hein? Jusqu'à ce que Samson ait cédé par les flatteries de Delila, et nous savons tous ce qui lui est arrivé. Mais il faut savoir, avant,
Samson était parti, il prend une femme qui était dans l'autre bout du monde, qui n'était pas de son pays. Et le père, le maire l'avait dit, mais pourquoi vous laissez Argenteuil, l'église biblique, vous allez prendre une femme, une fille à l'église de Basilique. C'est la réalité, mes frères et sœurs. Peu importe l'âge, culture, origine, si vous obéissez à la parole de Dieu et vous mettez la parole de Dieu en pratique, Dieu vous donnera celui ou celle que votre cœur désire. Et ceci attend. Ne soyez pas désespérés. Ne faites pas d'alliance avec les infidèles. Ne vous associez pas avec eux. Ne faites pas de compromis avec les païens. Les croyants sont invités à se consacrer pleinement à Dieu, avec crainte, avec révérence, parce que c'est Dieu qui mérite toute la gloire, l'honneur, le respect, c'est Dieu qui fait tout. Et gardons pour finir 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 et verset 11. Versets 10 et 11. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les hommes qui s'échangent, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. Savez-vous qui vous êtes? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, parce que vous êtes séparés du monde. Vous voulez les bénédictions de Dieu? Ces bénédictions sont disponibles. Quand nous lisons dans Deutéronome 28, versets 27 à 29, quand nous lisons Deutéronome 28, dans tous les chapitres, nous allons voir les bénédictions qui sont réservées à tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Mais attention, à côté des bénédictions, il y a des malédictions aussi. C'est à vous de choisir la bénédiction et la bénédiction. Ne vous mélangez pas avec les infidèles. Que Dieu vous bénisse.